Et on commence ce journal avec vous, Antoine Denecher, bonsoir.
Bonsoir.
L'actualité de ce dimanche 19 juin, c'est la campagne du référendum sur le Brexit qui a repris aujourd'hui au Royaume-Uni, Antoine.
Oui, la vie politique reprend son cours, mais s'agit-il d'un cours normal? Nous poserons la question à Franck Madvon. La campagne, en effet, a redémarré aujourd'hui, trois jours après le meurtre de la députée Jo Cox. En Italie, Matteo Renzi a beau minimiser la portée d'un scrutin qu'il qualifie de local. Si jamais son parti perd la mairie de Rome ce soir face au mouvement 5 étoiles, cela évidemment aura des conséquences politiques importantes pour son gouvernement, nous dira Mathilde Imberti depuis Rome. En France, alors que la CGT et les syndicats opposés à la loi travail annoncent de nouvelles mobilisations dès jeudi, que dans les transports la grève se poursuit, le gouvernement a-t-il perdu le contrôle de la situation? Question au programme de dimanche et après avec vous, Olivier Gesbert.
Il lui faut en tout cas convaincre que non, qu'il n'y a pas de crise de l'autorité au sommet de l'État. Mais comment s'imposer, comment imposer son autorité sans froisser notre sensibilité démocratique? Rendez-vous dans un quart d'heure pour en débattre.
A tout à l'heure, la chronique économique également dans ce journal. Valérie Second nous parlera du dumping social et de ce que fait ou ne fait pas l'Europe face à cela. Après le choc et l'émotion provoqués par le meurtre de la députée Jo Cox, la campagne électorale a donc repris ce matin au Royaume-Uni. Pro et anti-Brexit jettent leurs dernières forces dans la bataille à 4 jours seulement du référendum qui décidera si le pays sort ou pas de l'Union européenne. Reportage signé Franck Madvon.
Parmi les ténors pro-Brexit de Vote Leave, rassemblés à Londres, seule la députée travailliste Kate Hoey, émue, fait allusion au meurtre de sa collègue Jo Cox.
Jo était une démocrate et elle aurait voulu que personne n'essaye de lier ce référendum à la terrible tragédie survenue il y a quelques jours.
Le message des eurosceptiques est clair, le meurtre de Jo Cox n'a rien à voir avec la campagne. Les pro-Brexit savent pourtant bien que le climat politique a changé et se montrent d'ailleurs beaucoup plus prudents sur l'immigration. Certes, ils veulent quitter l'UE pour pouvoir mieux contrôler les frontières, mais Boris Johnson, par exemple, se dit pro-immigration et défend même une amnistie pour les clandestins au Royaume-Uni depuis au moins 12 ans. Du côté des militants, on blâme le gouvernement pour le climat agressif de la campagne.
C'est notre gouvernement qui crée les problèmes en n'étant pas positif dans la manière dont ils présentent les choses. Ils emploient la menace et ils continuent alors que ça ne marche pas.
David Cameron, en effet, met encore en avant aujourd'hui les risques économiques d'un Brexit. Et dans une interview au Sunday Times, il insiste sur un autre message, 3 jours après le meurtre de Jo Cox, son attachement à une Grande-Bretagne tolérante. La Grande-Bretagne, dit-il, que défendent les pro-UE.
Un reportage de Franck Madvon qui a donc assisté ce matin au meeting pro-Brexit avec Boris Johnson organisé à Londres. Demain, le Parlement, qui normalement était en vacances depuis mercredi dernier à cause de ce référendum, se réunira exceptionnellement pour une session extraordinaire à dommage à Jo Cox, tandis que le meurtrier présumé Thomas Mayer, lui, comparaîtra demain devant un tribunal de Londres. Les Italiens des grandes villes votent aujourd'hui et jusqu'à 23h pour le second tour des élections municipales. C'est un nouveau test de popularité pour le président du Conseil, Matteo Renzi, et son parti démocrate après les déconvenues subies au premier tour. Il pourrait bien perdre Rome au profit des anti-systèmes du mouvement 5 étoiles. Milan également est scruté à la loupe, puisque la droite y est en embuscade pour reprendre la capitale économique de l'Italie, Mathilde Imberti.
Matteo Renzi, rentré hier soir d'un forum économique de Saint-Pétersbourg, a brillé par son absence dans la campagne électorale d'entre les deux tours. Le président du Conseil italien, au pouvoir depuis maintenant 3 ans, pourrait ressortir de ce scrutin local affaibli. Rome pourrait passer au mouvement 5 étoiles. À Turin, le centre-gauche affronte également le mouvement populiste. Quant à Milan, le centre-droit est au coude à coude avec le candidat du Parti démocrate, le politologue Giovanni Orsina.
La figure de Renzi, du président du Conseil, est devenue une figure centrale et il y a un réflexe, on peut dire, de tout contre Renzi. S'il va perdre Rome au moment 5 étoiles, s'il va perdre Milan pour le centre droite, et les deux choses sont possibles, il va être beaucoup, beaucoup plus faible, certainement. Et le mouvement 5 étoiles aura la possibilité de démontrer aux Italiens qu'ils sont capables d'administrer une grande ville et peut-être aussi contrôler si le mouvement 5 étoiles peut être une alternative aussi sur l'échelle nationale.
Deuxième tour à risque pour Matteo Renzi qui en octobre jouera une partie encore plus délicate avec le référendum constitutionnel. Les premières estimations pour les municipales d'aujourd'hui sont attendues vers minuit.
Une correspondance de Mathilde Imberti à Rome pour France Culture. L'an dernier encore, ce genre de contrats commerciaux était tout simplement inenvisageable. Mais depuis, il y a eu la levée d'une partie des sanctions économiques contre l'Iran. Et après Airbus en début d'année, voilà que Boeing vient de s'entendre avec Téhéran pour la commande d'une centaine d'avions afin de renouveler une flotte iranienne vieillissante, Siavosh Ghazi.
C'est encore un premier pas. En effet, la compagnie Boeing doit encore obtenir l'autorisation du Trésor, mais aussi l'aval politique du gouvernement américain. Mais si cet accord était effectivement signé, ce serait le plus grand contrat entre l'Iran et les États-Unis depuis la chute du régime impérial en 1979 et l'instauration de la République islamique. L'Iran a déjà conclu fin janvier un protocole d'accord avec l'avionneur européen Airbus pour l'achat de 118 appareils, mais là encore, le Trésor américain doit donner son accord car plus de 10% des composants des Airbus sont d'origine américaine. Des négociations sont menées depuis plusieurs mois entre Airbus et les Américains. Malgré l'entrée en vigueur de l'accord nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances en janvier et la levée d'une grande partie des sanctions internationales, les grandes banques, en particulier européennes, rechignent toujours à faire des affaires avec l'Iran par peur de mesures punitives des États-Unis. Téhéran accuse Washington de ne pas faire assez pour rassurer les banques internationales, mais si ces deux accords avec Airbus et Boeing entrent effectivement en application, ils donneront un signal positif pour les compagnies et banques étrangères.
Une correspondance de Siavosh Ghazi à Téhéran pour France Culture. En France, après les violences en marge des défilés contre la loi travail, Bernard Cazeneuve s'en prend à la CGT. Dans un communiqué cet après-midi, le ministre de l'Intérieur affirme qu'il donne des consignes très claires aux policiers depuis le début, notamment faire un usage proportionné de la force pour assurer la sécurité des manifestants et des riverains. Bernard Cazeneuve juge très regrettable, je cite, que Philippe Martinez tente de travestir sciemment ses orientations claires. Le leader de la CGT ce matin s'était interrogé sur les consignes données par les préfets aux policiers et avait demandé pourquoi on était capable d'arrêter des hooligans russes en 48 heures et pas des casseurs pourtant identifiés depuis le début. On le sait, depuis le vote à l'unanimité du Conseil national du PS hier, il y aura une primaire de la gauche, en tout cas d'une partie de la gauche, dite de gouvernement, pour désigner le candidat à la présidentielle et François Hollande, s'il est candidat, devrait s'y soumettre. Bonsoir Jérôme Fourquet.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du département opinion publique à l'IFOP. Vous êtes l'un des invités de dimanche et après sur France Culture tout à l'heure à partir de 18h15. La presse estime que cette primaire est taillée sur mesure pour François Hollande. Alors si jamais le chef de l'État sortant se présente devant les sympathisants et les électeurs de son camp, est-ce que ça peut, dans l'opinion, redorer son blason et le relégitimer sur le mode « il a eu du cran » ?
Alors écoutez, c'est je pense ce que les Hollandais essayent d'installer comme idée. On constate quand même que la primaire, elle s'est un peu imposée à l'Élysée, que c'était pas forcément le scénario idéal, et que, comme vous l'avez relaté, il y a des tensions aujourd'hui très très fortes au sein de la gauche. On voit les relations très dégradées avec la CGT. Et de mon point de vue, cette primaire, quand elle aura lieu, elle va être surtout l'occasion pour les adversaires internes à François Hollande de faire un bilan extrêmement critique, hein, puisqu'il va falloir faire le plus de voix possible et se démarquer. Et donc on va se démarquer en tapant à bras raccourcis sur François Hollande. Donc je pense qu'il y a beaucoup de coups à prendre pour François Hollande dans le cadre de cette primaire, même si elle est circonscrite à une seule partie de la gauche. On aura sans doute des candidats frondeurs, quid de Arnaud Montebourg par exemple, qui, eux, de mon point de vue, vont avoir une lecture très très critique du bilan gouvernemental des 5 dernières années.
Et quid d'Emmanuel Macron, qui en quelque sorte est cornérisé, un peu coincé ?
Alors là, effectivement, mais c'est pas lié uniquement à la primaire, hein, c'est lié à des engagements qu'il a exprimés publiquement, en disant que si François Hollande était candidat, eu égard à la relation qu'il avait avec lui, il ne serait pas candidat contre François Hollande. Donc là, c'est pas primaire ou pas primaire, c'est il a lié son destin à la décision de François Hollande, en tout cas pour l'instant.
Merci beaucoup Jérôme Fourquet du département opinion publique à l'IFOP. Vous êtes l'invité de dimanche après sur France Culture, tout à l'heure jusqu'à 19h. Bonsoir Valérie Segond.
Bonsoir.
C'est la chronique économique sur France Culture. L'Europe vient d'adresser une mise en demeure à la France pour qu'elle n'impose pas que les chauffeurs routiers étrangers qui arrivent en France soient payés au SMIC. Alors qu'est-ce que ça veut dire ?
Pour lutter contre le dumping social des travailleurs détachés, il y en a 500 000 en France, la loi Macron d'août 2015 avait imposé aux entreprises étrangères qui détachent des travailleurs sur le sol français de payer leurs salariés au SMIC horaire et de leur fournir une attestation préalable de détachement ainsi que les bulletins de salaire des mois précédents pour que l'on puisse surveiller leurs conditions de rémunération. Le cas des camionneurs étrangers est un cas particulier du détachement, mais il faut distinguer deux situations. Il y a ceux qui traversent la France quasi sans s'arrêter Et contre eux, on ne peut rien faire au nom de la libre circulation et de la libre prestation. Mais il y a aussi ceux qui font du cabotage, c'est-à-dire des opérations de chargement et déchargement sur le sol français avant de rentrer chez eux, et parfois pendant une semaine. En fait, ceux-là travaillent sur le sol français, mais aux conditions de leur pays, et créent ainsi une importante distorsion de concurrence. Et parfois, ce sont même des employés de transporteurs français, comme Geodis ou Norbert d'Entresangles, par exemple, qui emploient des chauffeurs polonais ou roumains, basés à la frontière. Alors, comme l'Allemagne, la France voulait soumettre ses chauffeurs au SMIC français dès leur arrivée en France, sur les kilomètres parcourus en France et pour leur temps de travail sur le sol français. Les décrets d'application sortis en avril devaient s'appliquer à partir du 1er juillet prochain, et voilà que Bruxelles vient de dire non. Imposer les règles françaises à ses chauffeurs constitue pour elle une entrave à la libre circulation.
Est-ce qu'il faut comprendre que l'Europe se refuse en fait à lutter contre le dumping social ?
Ce n'est pas simple. Que dit l'Europe dans cette affaire ? Dans le cabotage, dit-elle, nous sommes en présence d'une entreprise de transport international qui circule entre deux États membres. Pour elle, ce n'est pas du travail détaché, c'est de la prestation de service sur un marché ouvert. Elle reprend ainsi mot à mot les arguments des chauffeurs polonais qui disent « nous ne sommes pas des plombiers ou des ouvriers, nous ne faisons que transiter ». Après, elle joue sur les mots, parce que bien évidemment, une grande partie des travailleurs détachés, en particulier ceux qui viennent aux conditions les plus basses, viennent dans les bagages d'entreprises d'intérim ou de transport, basés dans ces pays à faible charge sociale, comme s'ils ne faisaient que passer. Donc ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est le double discours de l'Europe. D'un côté, la commissaire européenne en charge des questions sociales, Marianne Thyssen, propose en mars 2016 de modifier la directive de 1996 sur les travailleurs détachés en demandant à ce que, à qualification et emploi équivalent, les travailleurs détachés bénéficient des mêmes conditions de rémunération, tout compris, sauf charge, que les travailleurs employés par la même entreprise du pays d'accueil. Et de l'autre, elle bloque, comme aujourd'hui, les tentatives des États d'assainir les pratiques.
Bon, alors du coup, Valérie Segond, pour y voir plus clair, quelle est la véritable position de l'Europe sur cette question ?
Bien, la vérité, c'est qu'elle est illisible. Et pourquoi ? Parce que entre l'Europe qui vit du travail détaché, à savoir les 11 pays du bloc de l'Est, et celle qui reçoit ses travailleurs sur son sol, la France, l'Allemagne et la Belgique, l'Europe est profondément divisée sur cette question. Les ex-pays du bloc communiste, tous exportateurs nets de main-d'œuvre et qui abritent les plus gros caboteurs européens, ont fait savoir il y a quelques semaines qu'ils mettraient leur veto au changement de directive proposé par Madame Thyssen. Alors ça, c'est une chose. Mais il faut savoir que même au sein des États, les divisions sont féroces. Entre d'un côté, en schématisant, les grands groupes et le patronat européen, avec le MINDEF derrière, qui raffolent du travail détaché, tout en jurant la main sur le cœur que s'ils en emploient, c'est parce qu'ils ne trouvent pas en France les compétences qu'ils cherchent. Et de l'autre, les petites entreprises, qui souffrent énormément de cette concurrence. Il n'y a pas d'Europe sociale, on le savait. Mais il n'y en aura pas, parce que les divergences sont trop importantes. Et que les pays de l'Est, qui ne veulent pas de l'Europe sociale parce qu'ils vivent du travail détaché, sont de plus en plus virulents et influents. C'est cela l'Europe.
Merci beaucoup Valérie Segond pour cette chronique économique en direct sur France Culture. Demain, c'est la journée mondiale des réfugiés à l'initiative de l'ONU. À cette occasion, le Refugee Food Festival s'installe dans plusieurs restaurants parisiens depuis vendredi. Ce sont des chefs réfugiés en fait qui font la cuisine afin de provoquer le partage culturel ou encore de questionner l'identité culturelle de chacun. Reportage sur cette initiative signée Julie Pietri.
Non, 180.
Mohamed El-Khaldi, 36 ans, est le chef aujourd'hui. Dans les cuisines exiguës de chez Poulette, restaurant du centre parisien, il tente de se faire comprendre.
Le gâteau ?
Oui, le gâteau.
Ah, ok.
Originaire de Damas, il est arrivé en France il y a 9 mois maintenant et a décidé de préparer aujourd'hui un repas traditionnel syrien. Ça s'appelle le faté. Il y en a trois sortes.
Chicken,
au poulet, à la langue de bœuf. Et là, c'est prêt.
Anton, where to live ? It's very, very hard to live.
Ça a été très dur de quitter mon pays, mon restaurant. Mais la guerre est terrible. J'ai trois fils et deux ont cessé de parler. Alors j'ai choisi de venir en France. Et c'est un nouveau départ. En salle, les clients s'assoient petit à petit. Leurs narines chatouillées par des odeurs de citron et de menthe de plus en plus présentes.
On vient goûter notre cuisine, donc chère à notre cœur.
Vous êtes d'origine syrienne ?
Exact.
Vous êtes là depuis combien de temps ?
30 ans. Donc c'est nous que le sens est un soutien.
À l'origine de ce projet centré sur la cuisine, il y a Marine Mandrila, cofondatrice de l'association Food Sweet Food.
Au cours déjà de l'organisation du festival, on a déjà deux restaurants qui ont fait une proposition à des chefs. Le premier pour un emploi à mi-temps dans son restaurant et le deuxième pour venir tous les lundis proposer sa cuisine syrienne. Je pense que c'est vraiment un outil d'insertion et d'intégration.
11 restaurants participent à ce festival culinaire jusqu'à mardi.
Un reportage signé Julie Pietri. La météo demain, temps gris et pluvieux dans le nord-ouest dès le matin et ensuite sur le reste du pays dans la journée. Beau temps près de la Méditerranée. Les températures iront de 9 degrés demain matin dans l'est jusqu'à 17 en Corse et sur le pourtour méditerranéen. Merci à Meta Citeia pour son aide.